Et, mais à la différence de Saint Augustin, Grégoire va accorder une place plus importante à la volonté. Vous voyez, d'accord, certainement que sa vie spirituelle peut-être pas passée par une conversion aussi subite que celle d'Augustin. Augustin vraiment a pris conscience que c'était la grâce qui était vraiment le moteur de sa vie spirituelle. Grégoire dit la même chose, mais n'étant pas passé par cette comment dire expérience, eh ben, il va finalement donner aussi une importance plus grande à la volonté, un peu comme justement les moines qui s'opposaient à saint Augustin ou à ses successeurs, qui disaient qu'il ne faut pas mépriser non plus la volonté, qu'il ne faut pas tout attendre de la grâce. Donc voilà. Et alors il nous a aussi donné une regula pastoralis, une règle pastorale, en 591, qui est destinée, là pour le coup, à la formation du clergé séculier. Et qui sera traduite en anglo-saxon par le roi Saint-Alfred d'Angleterre. Donc, qui du coup va s'en servir pour former son clergé. Alors dans le livre 1, il parle des qualités pour aspirer à la charge de pasteur. Puis, livre 2, comment organiser sa vie quand on est devenu pasteur. Puis, livre 3, la fonction d'enseignement du pasteur. Le livre 4, il insiste sur l'humilité. Et vous voyez qu'il est bien un disciple de Saint Benoît. Alors lui, il insiste beaucoup sur l'évangélisation et sur les cas très variés à rejoindre. Donc, je vous ai un peu énuméré tous ces peuples germaniques. Alors, les dialogues, qui est l'ouvrage par lequel on connaît Saint Benoît. Hein. Si on n'avait pas eu les dialogues, on n'aurait pas connu grand-chose de Saint Benoît. Eh bien, il présente à la demande d'un pasteur, l'évêque de Syracuse, ça tombe bien, aujourd'hui c'est Sainte Lucie, des figures de saints d'Italie. Voilà, pour édifier la population, il va raconter des vies de saints qui ont vécu en Italie, et en particulier, justement, Benoît de Nursie. Alors, le livre des dialogues a été composé, enfin publié, vers 594, et il compte 150 chapitres en 4 livres. Et le livre 2, 38 chapitres, est consacré intégralement à Saint Benoît, évidemment aussi à Sainte Scolastique. Et à ça, donc à ces ouvrages, s'ajoutent des milliers de lettres, de sa correspondance à des évêques, à toutes sortes de personnages, dont je vous dis 857 ont été conservés, ce qui est considérable pour l'Antiquité, même pour le Moyen Âge. En tout cas, la forte personnalité de Saint Grégoire fait comprendre à tous que la Rome impériale est bien morte et que désormais c'est la Rome des papes qui va la relayer. Hein, le duc de Rome étant quasiment devenu indépendant de Byzance. Il y avait un fonctionnaire qui était duc. Et finalement, il va être appelé le consul Dei, hein, le consul de Dieu, montrant bien les deux dimensions de son activité et en même temps étant un indice de cette future indépendance du patrimoine de Saint-Pierre. Alors voilà, une belle figure que celle de Saint Grégoire le Grand. Alors petit B, Encore deux, on pourrait dire deux pères latins qui sont de moindre importance, Saint Grégoire de Tours et Saint Isidore de Séville. Alors Grégoire de Tours, il est à peu près contemporain de Grégoire le Grand. Il est né en 538 ou 539. Et il s'éteint en 594. Alors lui, il est né à Clermont-Ferrand, dans une famille de la noblesse sénatoriale. Il est diacre de son oncle Nicet de Lyon, et successeur de son cousin à Tours. Voilà, une noblesse sénatoriale. Voilà. Diacre en 563 et évêque en 573. Et il est déjà le 22e successeur de Saint-Martin. Donc j'imagine que les médecins ne faisaient pas trop bien leur boulot. Hein, mais... tous... à l'exception de cinq, sont de sa famille. Hein. Sur les 22 successeurs de Saint-Martin, ils sont tous de la même lignée. Ouais, c'est lui qui le dit dans son Histoire des Francs, au livre 5. Alors, son pontificat est marqué par les rivalités sanglantes des trois royaumes francs. Vous savez que la tradition germanique consiste à diviser l'héritage comme si c'était un héritage privé. Hein, vous êtes, enfin, il n'y a pas de majorat et comme on divise les biens entre les fils. Et du coup, comme on n'a pas conscience de l'État encore, eh bien, on va considérer que le royaume, c'est en quelque sorte un bien patrimonial, et on va le diviser en autant de successeurs. Et il suffit qu'un successeur décède ou soit, etc., pour qu'on recompose l'ensemble, et à la génération suivante, on redécoupe encore le territoire, mais il y en a toujours qui sont plus ambitieux ou plus cupides que d'autres, qui scalpent un cousin pour récupérer sa principauté, etc. Donc, en fait, c'est un véritable panier de crabes que le monde mérovingien germanique et donc, à chaque fois, les leudes de tel ou tel princes mérovingiens vont faire la guerre à ceux du voisin et donc la Gaule est à feu et à sang à cause de ces héritages. Alors lui, le Grégoire, se retrouve à la première génération des successeurs avec donc les trois royaumes francs, il y a l'Neustrie, l'Austrasie, l'Aquitaine, enfin etc. Qui s'entre-déchire, le rôle des reines n'étant pas toujours non plus le plus pacifiant, hein, même si certaines se convertissent et fondent des monastères. Oui. Alors, en tout cas, il va se montrer intrépide dans la défense de l'indépendance et des droits de l'Église. Parce que tant que ces messieurs se font la guerre, ils ont tendance un peu à empiéter sur... parce qu'en fait, globalement, qui fait la guerre, hein, c'est quand même des Germains christianisés depuis peu. Et la grande population gallo-romaine, elle ne se sent pas vraiment, concernée par ces querelles dynastiques. Et eux, les évêques de vieilles familles gallo-romaines, essaie plutôt de mettre de l'huile dans les rouages, d'essayer d'apaiser ces conflits, qui sont des conflits entre envahisseurs, en somme. Alors, finalement, à l'époque où Saint Grégoire le Grand, à Rome, maintenait les restes de la civilisation romaine, eh bien, on peut dire que cette civilisation romaine avait déjà disparu en Gaule, à l'époque de Grégoire de Tours, ou même en Espagne, avec Isidore de Séville, même si justement ces évêques issus de la noblesse sont encore eux-mêmes personnellement largement marqués par la culture romaine du fait de leurs origines. Mais ils sont dans un monde où le pouvoir, entre guillemets, politique est passé à autre chose. Alors Grégoire nous a laissé des gesta Dei per homines, hein, les actions de Dieu pour les hommes, qu'on a appelé par la suite Historia Francorum, l'histoire des Francs, qui se veut un prolongement des chroniques de Eusèbe de Césarée et de Saint Jérôme, un ouvrage en 10 livres, mais évidemment avec une sorte de, disons, de concentration de l'intérêt sur la Gaule. Alors, le livre 1 est encore universel et il reprend les faces de l'Empire, voilà, et il s'arrête à la mort de Saint Martin en 397. Et les autres vont se concentrer donc sur la Gaule, et cela jusqu'en 591, 3 ans avant la mort de Saint Grégoire. L'idée, ça va vous rappeler quelque chose, est que les Juifs d'abord, puis les Romains, ayant failli, la Providence divine compte désormais sur les Francs pour accomplir ses desseins. Alors, pourquoi, hein? Donc l'idée, c'est que les Francs étaient à l'origine païens, donc ils n'étaient pas des Ariens. Et vous savez, c'est toujours plus facile de convertir quelqu'un qui a une religion finalement assez naturelle, assez simple, que de convertir quelqu'un qui a déjà une foi en quelque chose de plus transcendant. Parce qu'à ce moment-là, il vous répond avec des arguments moins rationnels, d'une certaine manière, et avec plus de passion. Hein, c'est plus difficile de convertir, semble-t-il, un païen qu'un arien. Hein. Et c'est pour ça que Rome a fait le choix, enfin Rome, plus exactement, les évêques gallo-romains ont fait le choix des Francs, qui étaient des païens, en espérant leur conversion, et ensuite en les soutenant, parce que finalement tous les rois visigoths et les rois ariens de Gaule avaient comment dire, une cinquième colonne dans sur leur territoire, qui était rien d'autre que les populations des villes dirigées par des évêques catholiques et anti-ariens. Donc toutes ces villes se sont empressées d'accueillir les Francs devenus catholiques et à favoriser l'échec ou la chute des rois ou des princes ariens. Donc c'est comme ça que les Francs ont été l'instrument de la Providence pour la catholisation, enfin disons pour l'évangélisation catholique, réévangélisation catholique de la Gaule. Donc en ayant évidemment l'appui des populations gallo-romaines, ce qui a favorisé la fusion entre les populations de base, hein, qui étaient donc catholiques, et les Germains devenus catholiques. Alors il faut dire que Cassiodore avait à peu près dit la même chose d'Ego pour l'Italie, donc qui était aussi l'instrument de la Providence pour catholiciser les autres germaniques qui avaient été, vous savez, l'origine arienne des Goths, c'est enfin des Germains, ça avait été cet évêque Wulfila, qui était trilingue, latin, grec et gothique, et qui avait eu la bonne idée d'aller annoncer l'évangile dans les tribus au-delà du Limès. Et ça avait très bien marché, puisque quasiment toutes les, enfin pas tous, mais un bon nombre de peuples germaniques étaient devenus chrétiens, mais ariens. Alors après, la difficulté, ça a été d'en faire des catholiques. Alors, Grégoire de Tours va reprendre cette idée que les Francs, d'abord leur prince, puis ensuite leur peuple, et en quelque sorte le nouvel Israël qui est au service, évidemment, de la vérité catholique. Alors cette historiographie théologique va permettre d'intégrer les livres sur les miracles, les Libri Miraculorum de Grégoire. Alors tout d'abord, on parle des miracles de Jésus et des apôtres, puis des martyrs de la Gaule, dans les livres 1 et 2, puis les livres 3 à 6 vont parler des miracles de Saint Martin, et justement le livre 3, c'est une vie de Saint Martin, et c'est grâce, là encore, à un autre Grégoire, qu'on sait quelque chose de l'autre instituteur des moines en Occident, qui est Martin de Tours. Donc la vie de Saint Martin, c'est le texte de Saint Grégoire de Tours. Alors après, il va faire comme vraiment les deux Grégoire qui sont contemporains font la même chose. Comme l'autre avait fait dans ses dialogues une vie des saints italiens, eh bien, lui, il va faire une vie des saints gaulois. On a comme ça la vie de 27 saints gaulois. Et au livre suivant, leurs miracles. Parce que les populations sont intéressées par les saints dans la mesure où ils font des miracles quand même. Et des miracles post-mortem, des miracles qui les concernent eux. Et donc c'est ça qui les rend plus... Donc il faut qu'il y ait des miracles, alors on a tendance un petit peu à charger la barque, pour faire passer la spiritualité des saints en question. Sinon, ça aurait moins d'effet. Alors Grégoire écrit dans un style rustique, dit-on, destiné à ses lecteurs qui n'ont plus la distinction antique. Et alors il écrira ceci, « Malheur à notre époque, car l'étude des lettres est morte parmi nous. » Et malheur à notre époque, car l'étude des lettres est morte parmi nous. Et je crois que certains latinistes disent qu'il fait l'un ou l'autre solécisme même dans cette phrase. Donc c'est effectivement une époque rude. Hein. Par exemple, il arrive qu'on enterre quelqu'un et que les héritiers se disputent autour du cercueil au point de s'entretuer dans l'église. Que donc, on doit prolonger en quelque sorte les funérailles avec les héritiers qui ont été dans le sang et encore frais sur le pavé. Donc, voilà. Alors, vous savez, on a eu tendance à dire, pour préparer un petit peu le grand remplacement, que les invasions barbares étaient ce que les Allemands ont toujours appelé des Völkerwanderungen, hein, des promenades, des migrations pacifiques, des promenades des peuples germaniques.